Terroanne est un modeste chef-lieu de canton du Pas-de-Calais, à une quinzaine de kilomètres de Saint-Omer. Mais c'était une cité épiscopale tout au long du Moyen-Âge, jusqu'à sa destruction par Charles Quint en 1552. Cité épiscopale, il me paraissait intéressant d'essayer de voir si ce qu'on pouvait trouver pour Terroanne correspondait ou pas à ce qu'on trouvait pour Arras. Je suis parti il y a en fait à peu près 25 ans, j'ai commencé à étudier Terroanne, mais très vite j'ai été absorbé par d'autres tâches, notamment des tâches d'enseignement. Le dossier Terroanne a commencé à s'endormir, à traîner dans un coin, et je le ressors de temps à autre quand j'en ai l'occasion. Mais ça me permet de faire un peu un bilan, finalement, d'un travail sur des chartes épiscopales. Ce qui m'intéresse, en l'occurrence, c'est de voir dans quelle mesure les évêques utilisent les chartes comme outils politiques, outils dans leur politique. Je trouve que c'est ça, finalement, la question. Alors, en tout cas, c'est celle qui m'intéresse le plus. Or, pour étudier cet aspect-là, il faut être conscient de ce qu'est une charte épiscopale, de comment s'élabore une charte épiscopale. La première chose à rappeler, c'est que l'évêque n'est en un sens pas l'acteur principal d'une charte épiscopale. En ce sens que, dans la plupart des cas, il y a l'acteur principal, c'est celui qu'on appelle généralement le bénéficiaire. J'avais essayé de populariser l'appellation de impétrant dans ma thèse il y a longtemps, mais ça n'a eu aucun succès, donc je laisse tomber. Ça me paraissait plus cohérent, pourtant, de parler d'impétrant. Il y a celui qui vient demander une charte épiscopale, qui est généralement un abbé ou un prévôt ou doyen de chapitre. Ce n'est en effet généralement pas l'évêque qui est à l'initiative de l'action juridique consignée dans une charte. On peut discuter sur les détails, voir dans un certain nombre de cas où on peut imaginer que c'est malgré tout l'évêque qui est à l'initiative, mais ça semble quand même très marginal. Donc lorsque on voit que un évêque, par exemple le premier des deux sur lesquels je vais vous les présenter tout de suite, mais je commence par un peu de théorie, l'évêque Milon Ier de Terroanne ne donne en 28 années d'épiscopat aucune charte pour la prévôté de Watt, Watt ou Watten, ça s'écrit Watten, près de Saint-Omer. Alors est-ce que c'est l'évêque Milon qui boycotte la prévôté de Watt, ou est-ce que c'est la prévôté de Watt qui ne souhaite pas s'adresser à l'évêque? Ou d'ailleurs, autre possibilité, la prévôté de Watt ne reçoit aucune donation méritant d'être consignée dans une charte épiscopale durant cette période. Mais c'est pas forcément un instrument. En l'occurrence, tout ne relève pas de la politique de l'évêque. Oui, j'avais pensé prendre un exemple. Milon Ier donne, 142, un hôtel à l'abbaye de Choc. C'est sans doute pas Milon Ier qui s'est levé un matin en se disant « Tiens, si je donnais un hôtel à l'abbaye de Choc ». C'est une demande faite par l'abbaye de Choc, peut-être à la suite d'une campagne de lobbying, peut-être parce que le détenteur séculier de l'hôtel l'a remis à l'évêque. Le rôle de l'évêque est donc pas forcément essentiel. La délivrance d'un acte, il faut jamais l'oublier, était sans doute payante. On a très très peu de preuves formelles pour le XIIe siècle. On en a même pour le XIIe siècle, moi je n'en connais pas, j'en connais une pour le début du XIIIe siècle. Cher d'ailleurs, c'est un acte, alors là en l'occurrence c'est une comtesse et pas un évêque qui donne l'acte, comtesse de Saint-Paul, il s'agit de payer 10 livres quand même pour l'émission de la charte comtale, donc c'est une somme considérable. On a aucune idée de s'il faut généraliser ce tarif. Je suis pas en train de dire que les chartes d'évêques de Terroanne coûtent 10 livres au XIIe siècle, mais il y a malgré tout un prix à payer. Il y a plusieurs moyens de consigner une donation ou une action juridique par écrit. Les bulles pontificales, les chartes épiscopales, les chartes comtales, les chartes données par l'abbaye elle-même, par l'abbé lui-même. Les chartes seigneuriales, mais c'est plutôt fin XIIe siècle à ce moment-là, lorsque les seigneurs disposent d'un sceau. Là aussi, il faut nuancer, bien sûr, ce que je dis un peu rapidement ici. Et il y a toute une production diplomatique que j'appelle, moi j'ai tendance à parler d'infra-diplomatique, il faut appeler les choses par leur nom, qui relève des libri traditionum, par exemple, de simples petites notices qu'on peut trouver à gauche, à droite, qui ont l'inconvénient de ne pas avoir la même validité juridique qu'une charte et l'avantage d'être plus souple et gratuite, d'autre part, puisque élaborée à l'intérieur même de l'abbaye. Est-ce que cela veut dire que l'évêque n'a pas de marge de manœuvre, que l'évêque est là simplement pour donner les chartes qu'on lui demande de donner? Non. D'abord parce que certains évêques, en tout cas, ont une vraie politique de diplomatique. C'est le cas, et l'évêché d'Arras est particulièrement intéressant en la matière, c'est le cas des évêques Lambert et Alvise, Lambert 1093-1115, Alvise 1131-1147, vous voyez qu'il y a une distance, une quinzaine d'années entre les deux, et il y a un épiscopat intermédiaire qui est bien en décalage avec ceux de Lambert et d'Alvise. Lambert et Alvise ne donnent de charte, sauf exception, que pour des donations d'autels à des monastères ou des chapitres et des fondations ou réformes d'établissements monastiques ou canoniaux. Sauf exception, ils ne donnent pas de charte pour consigner des donations de dîmes, de terres, de droits seigneuriaux divers ou variés. C'est une exception. L'évêque Robert, qui est entre deux, donne des actes pour autre chose que des donations d'autels, et la plupart des évêques voisins, notamment les évêques de Thérouanne, donnent des chartes pour des objets extrêmement divers. Donc je pense que là, l'interprétation, il y a une vraie politique menée par ces évêques de restreindre leur diplomatique à des objets qu'on peut plus ou moins rattacher à la réforme grégorienne. De nouveau, on pourrait nuancer cette appellation, bien sûr. L'évêque peut aussi essayer d'orienter la générosité des bienfaiteurs laïcs dans une limite que nous avons beaucoup de mal à appréhender. Mais on peut imaginer que dans certains cas, on peut imaginer, là c'est plus qu'imaginer, une donation est précédée par une phase de discussion et de négociation. Les donations ne se font pas du jour au lendemain, il y a une négociation, et dans la négociation, l'évêque peut être partie prenante, directement ou indirectement, et peut essayer de suggérer un bénéficiaire auquel le donateur n'avait pas forcément pensé. Qu'est-ce qui me permet de penser ça? C'est de nouveau le cas de Lambert et d'Alvise, sous lesquels en particulier Lambert, il y a plusieurs donations d'autels. Or, on sait que les donations d'autels se présentent dans le cadre grégorien comme des donations faites par l'évêque, mais sont en fait un transfert de la part de l'évêque d'un autel qui lui est donné par un propriétaire laïque ou ecclésiastique, mais ecclésiastique séculier. Or, Lambert donne des chartes à des abbayes, donne des autels à des abbayes lointaines, ou plus ou moins lointaines, c'est Saint-Pierre de Gand, c'est Saint-Denis de Reims, par exemple, c'est la Trinité-au-Mont à Rouen. Et on sait par la correspondance de Lambert, qu'on a également conservée, que Lambert, qui était premier évêque d'Arras, voulait se constituer un réseau de correspondants. Il y a un vrai travail de réseautage de Lambert. Ça se voit dans sa correspondance. On le sait notamment pour Anselme de Canterbury, avec qui Lambert aime bien correspondre. Et c'est très intéressant parce que dans la correspondance de Lambert, on a les lettres de Lambert à Anselme et la réponse d'Anselme. Dans la correspondance d'Anselme, on n'a rien du tout. Parce que pour Anselme, Lambert d'Arras n'avait aucune importance, ce n'était pas la peine de garder les lettres. Et donc cette politique de donation à des abbayes lointaines me paraît faire partie de cette politique de Lambert de constituer ce réseau de soutien au diocèse d'Arras dont l'indépendance était menacée, puisque Cambrai, l'Arras avait été distrait de Cambrai, à Cambrai on cherchait à récupérer le diocèse d'Arras. Donc possibilité de politique à cet égard. Possibilité aussi de politique épiscopale en ce qui concerne la forme des actes Est-ce que l'évêque va donner des chartes au sens pleinement diplomatique du terme, ou accepter de sceller des notices ou des actes faits par d'autres personnes? Est-ce que l'évêque va vouloir que les actes soient élaborés dans la chancellerie épiscopale ou accepter qu'ils soient élaborés en dehors de la chancellerie épiscopale? Est-ce que l'évêque va vouloir imposer un formulaire plus ou moins précis? Là, de nouveau, il y a une marge de manœuvre épiscopale. Qu'en est-il à Thérouanne, parce qu'il est temps que je vienne à mon sujet, sinon vous allez avoir l'impression que je cherche simplement à gagner du temps en revenant sur ma thèse et en dissimulant le fait que je n'ai rien à vous dire à propos de Thérouanne. Si. Le prédécesseur de Milon Ier, puisque je vous parlais de Milon Ier et Milon II, le prédécesseur, j'ai eu l'occasion de l'étudier il y a quelques années déjà, Jean de Warneton, 1099-1130, personnage relativement important, présenté généralement comme un grand grégorien d'ailleurs, Jean de Warneton utilise très peu les actes comme outils de sa politique épiscopale. Il souscrit, j'ai envie de dire qu'il souscrit à peu près tout et n'importe quoi. Il met son sceau et sa souscription au bas de documents qui lui échappent complètement. Ses actes sont de type très différent. Il concerne des hôtels, mais aussi des terres, des dîmes, de manière tout à fait indifférenciée. Et il n'y a quasiment pas de traces de formulaire épiscopal, pas de traces visibles d'élaboration des actes par la chancellerie. Bref, Jean n'utilise pas ces chartes comme un moyen, ou n'optimise pas, disons, l'utilisation de ces actes comme un moyen essentiel de sa politique. C'est donc la situation dont héritent nos deux personnages d'aujourd'hui, Milon Ier et Milon II. Milon Ier commence une carrière de chanoine au chapitre cathédral d'Amiens, devient chanoine régulier et ensuite abbé de Saint-Josse-au-Bois, plus souvent connue sous le nom de Dommartin, où elle a été transférée en 161, avant de fonder l'abbaye de Sélincourt, qui, mais après le départ de Milon, deviendra une abbaye prémontrée. À la mort de l'évêque Jean en 1130, il y a une première élection qui est celle de Baudouin, frère de Thierry d'Alsace, nouveau comte de Flandre, mais l'élection est cassée par l'archevêque de Reims. Le phénomène n'a pas été encore assez étudié, je pense. Et on élit alors Milon, qui a donc dû arriver dans un contexte un peu tendu. C'est le moins, à mon avis, qu'on puisse dire. Il est consacré évêque à Reims le 15 février 1131. Il meurt le 15 ou le 16 juillet 1158. Il est remplacé à ce moment-là par son homonyme, Milon II, d'origine anglaise, qui apparaît comme archidiacre de Thérouanne en 1135, à partir de 1135, et qui a donc vécu comme archidiacre quasiment tout l'épiscopat de Milon Ier. Milon II est consacré par Alexandre III à la fin 1159 au début 1160. Il meurt le 14 septembre 1169, et on ne sait pas du tout ce qu'il a pu faire et d'où il venait avant son accession à l'archidiaconat en 1135. On en a souvent fait parce que, et on revient à un débat qu'on vient d'avoir, comme il y a cette homonymie entre Milon Ier et Milon II, on a longtemps considéré que c'était forcément un oncle et un neveu. Il n'y a aucune mention explicite dans les textes, et le fait que Milon II soit d'origine anglaise, ce qui n'est absolument pas attesté pour Milon Ier, tend au contraire à infirmer ce lien de parenté. Pour ces deux évêques, on dispose de 122 actes, sans compter une lettre et deux actes faux, 87 pour Milon Ier, 33 pour Milon II, et 2 pour Milon Ier ou Milon II. Mais on ne peut pas, juste pour le moment en tout cas, on n'a pas, j'ai pas réussi à dater exactement. Alors qu'est-ce qu'on peut voir dans ces actes ? En ce qui concerne l'objet des actes, il y a des choses très diverses. 53 actes portent sur des hôtels, églises, droits paroissiaux, etc. 43 sur des terres, des droits fonciers, moulins. 10 actes sur des dîmes, 4 sur des fondations ou réformes d'abbayes. Donc un usage assez varié, en tout cas pas de focalisation sur les donations d'hôtels, comme c'était le cas à Arras dans les mêmes années que le début de l'épiscopat de Milon Ier. Est-ce qu'il y a une préférence pour certaines institutions Pas vraiment. Est-ce qu'il y a une focalisation sur le diocèse? C'est une autre question intéressante, c'est de voir si les évêques donnent assez volontiers des actes pour des institutions situées hors de leur diocèse ou pas. Là, nouveau, dans le cas d'Arras, on voit une différence très nette entre Lambert et Alvise d'un côté, Robert de l'autre, pour la première moitié du XIIe siècle. Milon Ier et Milon II donnent au total 42 actes, donc à peu près un tiers, pour des institutions situées hors de leur diocèse. C'est beaucoup. Mais j'ai du mal à y voir une stratégie parce que, de nouveau, ce n'est pas forcément l'évêque qui choisit, ce que j'évoquais tout à l'heure. La restitution de la dîme de Reningue faite à l'abbaye de Marchienne, diocèse d'Arras par exemple, c'est clairement le laïc qui avait usurpé, dans des conditions que nous ne connaissons pas, cette dîme qui la rend à l'abbaye à laquelle elle avait plus ou moins appartenu au préalable, donc le choix était logique. Autre exemple, là c'est intéressant aussi, il y a une charte en faveur de l'abbaye de Montmartre, près de Paris, mais le texte précise, et c'est une indication précieuse parce que justement rare, les donateurs laïcs du bien donné à Montmartre sont frères et sœurs de l'abbesse de Montmartre. Donc, de nouveau, il n'y a pas de politique épiscopale. Deux exceptions possibles. Une exception claire, c'est Arouez. Arouez qui a reçu 7 actes de Milon Ier et Milon II, ce qui est quand même beaucoup. Mais Arouez a deux caractéristiques. La première, c'est que l'abbé d'Arouez, au début de la période, l'abbé Gervais, est originaire de Boulogne-sur-Mer, donc du diocèse de Thérouanne. Il y a des réseaux entre Arouez et Thérouanne qui sont très actifs, d'une part. Et d'autre part, Milon Ier, je vous rappelle, est un chanoine régulier. Arouez est une importante abbaye de chanoine régulier, ça a dû jouer également. Et ce lien de chanoine régulier joue sans doute également avec le Mont-Saint-Éloi, autre abbaye pour laquelle il y a plusieurs actes. Je crois qu'il y aurait à travailler d'ailleurs sur la place du Mont-Saint-Éloi qui devrait être mieux étudiée. Je crois que le Mont-Saint-Éloi, c'est un peu l'établissement phare des chanoines réguliers dans le nord de la France, fin 11e et dans une large partie du 12e siècle. Une sorte de patron lointain des chanoines réguliers. Donc il ne s'agit pas vraiment d'une politique de réseautage. Je vais passer très vite, alors j'ai plein de pages là-dessus, mais ça tombe bien parce que c'est très aride et je ne voudrais pas vous ennuyer trop longtemps, sur la rédaction des actes épiscopaux. Disons en gros qu'il n'y a pas de formulaire aussi rituel que celui que j'avais pu constater à Arras. En revanche, il semble que surtout sous Milon Ier, plus que sous Milon II, il y a pas mal de formules qu'on retrouve dans plusieurs actes. C'est donc pas un formulaire rigide, c'est un ensemble très mouvant de formules qu'on voit passer d'un acte à l'autre, mais qui donne l'impression que la plupart des actes ont été rédigés à la chancellerie épiscopale. Il y a quelques exceptions, sous Milon Ier, sous Milon II, mais disons que c'est une tendance générale. Pour l'écriture des actes, on est handicapé par le fait que nous ne disposons que de 24 originaux, c'est-à-dire moins de 20% des actes, un gros taux de perte de chartes originales. Il y a une écriture que je retrouve dans 3 chartes, donc c'est un peu, et 2 autres actes pour lesquels on retrouve une écriture de bénéficiaire. La forme est presque toujours celle de charte, il y a peu de notices. En revanche, il y a quelques lettres, j'ai mentionné une lettre tout à l'heure, mais la lettre que j'acceptais du corpus des chartes, c'est une lettre à contenu tout à fait épistolaire, rien à voir avec un contenu diplomatique. En revanche, il y a plusieurs chartes qui ont en fait la forme de lettre, en ce sens que le contenu de la lettre est juridique, et que la lettre, parfois avec liste de témoins d'ailleurs, sert à valider une action juridique. Et ça, c'est un choix un peu. Alors, il y en a 3 ou 4, hein, il n'y en a pas des masses, mais c'est un choix assez intéressant. 11 chirographes, mais le mot chirographe est exceptionnel. Il y a 4 actes sur les 122 qui mentionnent le chirographe dans le texte même de la charte. En d'autres termes, on ne peut étudier le chirographe à Thérouanne à cette période que, pratiquement, que quand l'original est conservé, ou quand un érudit au XVIIIe siècle en a fait une description correcte. Donc là, ce nombre de 11 est à relativiser. Et quelques actes, malgré tout, ça c'est intéressant, quelques actes donnés par d'autres que l'évêque et que l'évêque accepte de souscrire et de sceller, généralement. Le bilan de tout cela, donc j'arrive, alors attention, c'est un piège, j'arrive à ma conclusion, mais c'est un piège parce que il y aura une... C'est en faux semblant. la conclusion, c'est que Milon Ier et Milon II font une utilisation assez mesurée, finalement, de leurs actes comme outils diplomatiques. Mesurée dans la mesure où il n'y a pas de chancellerie extrêmement établie, il n'y a pas de rituel du formulaire, par exemple, il n'y a pas de choix de destinataire ou de contenu des actes. Il n'y a pas de choix systématique de la forme de la charte épiscopale, puisqu'on a malgré tout quelques exceptions, sous forme de lettres, sous forme de notices ou de chartes données par d'autres auteurs, mais scellées par l'évêque. Malgré tout, il y a ce jeu sur les formules qui montre une attention des de Milon Ier en particulier à l'égard de ces chartes. Petite transition après cette conclusion provisoire, parce que depuis tout à l'heure j'utilise le mot chancellerie et j'ai bien compris, rien qu'en fin d'après-midi hier, que vous aviez déjà discuté de l'utilisation de ce mot de chancellerie. C'est évidemment un débat de fond. Je persiste à penser qu'on peut utiliser le mot de chancellerie dans la mesure où il faut bien utiliser un mot pour désigner l'instance, la personne qui organise, qui veille à la production des chartes épiscopales. Même si c'est minimal, malgré tout, il y a une structure. Et les autres expressions qu'on utilise parfois, on utilise parfois maintenant, par exemple, l'expression de lieu d'écriture, bureau d'écriture. Alors, bureau d'écriture, sachant qu'on refuse le mot chancellerie parce que ça fait institution au XIXe siècle. Alors, bureau d'écriture, je trouve que ça fait encore plus. On imagine le chef de bureau et le sous-chef de bureau. Ça me paraît encore pire. Et lieu d'écriture, des lieux d'écriture, il y en a plein. On sous-estime complètement le nombre de lieux d'écriture qu'il pouvait y avoir. Donc, à mon sens, gardons ce mot de chancellerie, mais évidemment... Quand je parle de chancellerie des évêques de Thérouanne, je ne parle pas d'un bâtiment de 300 mètres carrés avec 50 fonctionnaires qui travaillent dedans. Il y a 3 chartes par an en moyenne conservées. Il faut en ajouter un peu qu'on a perdu sans aucun doute. Il faut y ajouter d'autres documents appartenant à des genres que nous avons perdus sous forme épistolaire, sous forme de mandement, etc. Malgré tout, ça ne justifiait même pas l'activité d'une personne à mi-temps. Donc, c'est pas une institution stable, mais il y a une institution. Est-ce qu'il y a d'ailleurs un chancelier ? C'est très intéressant. Le chancelier, il n'y a pas de quinquellarius sous Milon Ier. Il y en a un sous Milon II. C'est sous Milon II qu'apparaît le quinquellarius, c'est le seul quinquellarius d'ailleurs de Thérouanne au XIIe siècle, à un moment où l'attention à la charte épiscopale faiblit, puisque je vous ai suggéré, c'est Milon II semble moins attentif à ces chartes que Milon Ier. La fonction de chancelier disparaît quand le chancelier Jean devient chantre, et à ce moment-là, il garde certainement l'activité du quinquellarius, mais il n'y a pas d'autre quinquellarius, et à la mort de Jean, il n'y a pas d'autre quinquellarius mis en place. En reprenant ce dossier, je me demandais ce qu'on pouvait apporter de neuf, alors pour Thérouanne bien sûr, puisque ça n'a pas été étudié, mais malgré tout, est-ce qu'il y a moyen de sortir un peu de la diplomatie pure et dure et de trouver des éléments de réflexion? Parce que, voilà, c'est après 30 ans ou 35 ans de diplomatique, il y a des moments où on a envie de voir un peu autre chose. Eh bien, à ma grande surprise et à ma grande satisfaction, oui. Et c'est ça qui est intéressant, malgré tout, dans beaucoup de dossiers. En effet, j'ai commencé à m'intéresser, pour des raisons diverses et variées, je ne vous raconte pas ma vie, il y a quelques années, aux mentions d'individus et d'égo, d'autobiographie dans les textes des 11e, 12e siècles. Cet égo, paradoxalement, bien que beaucoup de chartes commencent par égo, on les trouve peu dans les textes diplomatiques. Or, dans plusieurs actes de Milon Ier, et uniquement Milon Ier, on trouve des éléments personnels, disons, je ne vais pas parler d'autobiographie, encore qu'on trouve même de l'autobiographie à certains moments, des éléments personnels un peu plus forts que d'habitude. Alors bien sûr, les chartes, par définition, sont écrites à la première personne. Donc on trouve de l'ego, on trouve des verbes à la première personne, du singulier ou du pluriel, dans toute charte qui se respecte. Mais, charte de 1136, pour le chapitre cathédral, ce que Jean, mon prédécesseur, avait donné, ego comme caissier et comme quédo, tant qu'à faire, Milon ajoute un hôtel. Ego vero, ipse dedi. C'est pas tout, parce qu'un laïc, alerté par l'affaire, veut également donner des biens au chapitre. Monitione nostra. Sur notre avertissement, continue Milon. Et cette donation est confirmée par la sœur du donateur, mais présentée. Et à la fin, l'évêque déclare être témoin, horum donorum, ego testis sum, et concessi, et concedo. C'est-à-dire que si on commence à faire le total, il y a trois égos, je crois, dans cette charte, sans compter l'ego initial, ego milo episcopus, plus un certain nombre de verbes à la première personne. Et ce qui est intéressant, c'est que ça arrive à plusieurs reprises. Eustache de Fienne réclame un droit de relief à l'abbaye d'Andre en 137, peu importe, l'évêque l'apprend. Quod dum audibi, multum mihi velut inconvenience et importune displicuit. Quand je l'ai appris, ça m'a beaucoup déplu. Oui. Il intervient. Tunc deprecatus sum. Il obtient gain de cause. Tunc quam precatui nostro acquiescens, etc. Et de nouveau, il est témoin de cet accord. On pourrait continuer avec une charte pour l'abbaye de Bourbourg. Je n'ai pas le temps, parce qu'il me reste 2 minutes, exactement. Il y a un magnifique préambule pour l'abbaye d'Arouez, d'ailleurs. Debitor emme esse non ignoro, ut, je vais vite, manum consulationis por rigam, qu'on trouve dans autre charte aussi en 1150. Et enfin, un élément... Une lettre d'ailleurs, autobiographique, adressée par Milon Ier à l'archevêque de Reims et à l'évêque d'Amiens, à la fin de sa vie, en faveur de l'abbaye prémontrée de Saint-Jean d'Amiens. J'estime, dit l'évêque, que je dois vous faire savoir une chose qui s'est passée il y a longtemps. Dignum dilectissimi existimo, rem dudum per actam, etc. Pour ne pas qu'on colporte des choses fausses de mon vivant ou après ma mort. Ne quid de inceps, me vel vivente vel defuncto, lingue falsilo que moliantur. Donc, dit-il, je vous informe de ce que, avant d'être évêque, comme j'étais abbé de Saint-Jos-au-Bois et que l'église Saint-Firmin d'Amiens dépendait de moi, notum ubis facio, quod antequam at huius cure officium advocatus SM, cum monasterio sancti udo qui denemor et pre SM, et ecclesia sancti firminiam bianensis sub mea cura penderet, un bourgeois d'Amiens s'est donné dans ma main, quid amburgensis radulfus qui non ridet, c'est son nom, cesse in manum mea et sua omnia tradidit, j'atteste, et d'ailleurs c'est donné en ma main, et c'est donc ça l'intérêt de l'affaire, et j'atteste que cela est vrai, huius reiuritatem, coram deo, et vestra caritate et testificor, et je vous supplie, on continue à la première personne, de prendre la défense de cette donation. Ces notations me paraissent assez remarquables. Je ne connais pas d'autres ensembles d'actes dans lesquels on trouve une première personne aussi présente et aussi envahissante. Alors ça ne concerne que quelques actes, 6 ou 7, sur l'ensemble des 87, je crois, de mémoire, actes de Milon Ier. Malgré tout, j'ai tendance à y voir la main de Milon lui-même et l'intérêt que Milon pouvait prendre dans l'élaboration de ses actes. L'intérêt aussi que l'étude des actes peut, dans certains cas, représenter pour cette vieille question de l'ego et de du moi au XIIe siècle. Est-ce que les gens du XIIe siècle avaient un ego ou pas? Je pense que Milon Ier en avait un et je suis très content pour lui. Je vous remercie pour votre attention.